À Canalem, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous. Incroyable, ça y est, on y est arrivé à ce mois de juin. La saison régulière est maintenant terminée. Puis c'est un autre Aime l'été qui débute, Aime l'été 2018. On l'a appelé comme ça, c'est pas très original, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'été. À Canalem, on l'aime et nous sommes en 2018. Une formule, je dirais, agrandie d'une part parce que l'émission va se prolonger de 30 minutes cette année. Et oui, ça, vous allez avoir un beau 90 minutes d'informe quand même très estivale. On va bien sûr beaucoup parler de ces gens qui marquent la différence. Alors on va parler du handicap, bien évidemment, et des personnes qui vivent avec un handicap, mais aussi des personnes étrangères, peut-être aussi des personnes qui vivent une sexualité différente. On va parler de tourisme aussi, beaucoup, et de tourisme accessible, de culture et de culture accessible, parce que voyez-vous, on a un slogan cet été, c'est « Tout le monde dehors ». Et quand on dit « tout le monde », c'est « tout le monde ». Et tous les jours, ce n'est pas une personne, mais deux personnes qui vont venir animer l'émission. J'ai François Barbel avec moi. Salut François.
Bonjour.
Alors François, ensemble aujourd'hui, on va passer en revue un petit peu tout ce qui va se passer. On va commencer par une entrevue d'ailleurs avec vous dans quelques secondes. On va parler du gros. Vous savez, le gras. C'est-tu bon cette affaire-là? C'est-tu pas bon? On en entend en ce moment des vertes et des pas mûres. On va avoir aussi une entrevue avec Geneviève Labrec, directrice générale de regroupement pour la trisomie 21. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon petit François? On va avoir une chronique culturelle avec Maxime des Pomerleaux, voilà, oui. ça va se faire également. On va avoir une chronique socio-pop avec Benoît Racette. Ça alors là, qui va nous parler aujourd'hui des manteaux accessibles.
Oui. Ça, j'aimerais entendre.
Oui?
Oui, ça m'intéresse. Oui.
Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, les manteaux accessibles? J'ai aucune espèce d'idée, moi. C'est pour ça. Non, j'ai vraiment hâte de l'entendre là-dessus, le petit Benoît.
Ah oui, moi aussi, oui.
Et puis, on va avoir un autre Benoît, la personne de Benoît Rault, qui est déjà arrivé. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Et Benoît habite Victoriaville. J'ai découvert Victo récemment. Comment ça, je ne connaissais pas Victo? Mais oui, j'étais déjà allé, mais là, je répète, je l'ai découvert. Et c'est une région qu'on connaît trop mal. Et pourquoi Victoriaville plus qu'une autre ville cette année? Eh bien, parce que c'est la ville la plus accessible du Québec. On fait des efforts absolument admirables pour l'inclusion de toutes les personnes vivant avec un handicap. Et puis, on finira avec quoi donc? Je passe trop de temps là-dessus. Moi. Ah oui, on sera avec Hélène Gauthier, qui est bibliothécaire du SQLA, avec une chronique littéraire. François, avant, oui. Avant qu'on parle du gras, je voudrais vous faire entendre et peut-être même découvrir une chanson.
Mm-hmm.
Ça s'appelle... Oh ben, je ne vous le dis pas, il va le dire à la fin de la toune. Allez.
Chère mamie, cette petite carte de Vendée où nous sommes pour quelques jours. Tout contribue à ce que nous passions d'agréables moments.
Oui, vous vous rappelez ces cartes postales?
Le soleil magnifique.
Quand on était petit, il fallait toujours se forcer à les écrire. Il y avait...
Je t'embrasse bien fort.
Voilà, il fallait écrire à notre tante, notre grand-tante, notre grand-oncle. Et puis, bah, ça nous barbait. Alors, nos parents, ils écrivaient la carte et puis on signait en bas.
Il y a longtemps que je voulais t'écrire et puis, voilà, je ne l'ai pas fait.
Puis maintenant, le temps a passé. On ouvre notre boîte aux lettres.
Bien cher Jean-Luc,
c'est nous qui aimerions bien recevoir plus de cartes postales. Je me rappelle de mon grand-père à la fin de sa vie, il avait 86 ans.
Voyage de plus, cette fois.
Sa femme était morte.
Après un week-end de Pâques, toi, la semaine de congé.
Il rentrait tout seul, il avait du mal à pousser la porte, qui était assez lourde.
Je pense à toi.
Puis il ouvrait sa boîte et dedans il y avait des conneries de serrurerie.
On espère vraiment que par chez
toujours des prospectus, des machins, et puis. Je me suis dit, putain, je lui écrivais pas assez de cartes. J'aurais voulu lui écrire plein de cartes. Et voilà, et le temps passe, bordel. Le temps passe toujours trop vite. Et là, nos amis, souvent les plus chers, les meilleurs, sont partis. Ils sont loin, sont malades, sont morts. Parfois dans la nuit, on ne sait plus très bien qui on est, on ne sait plus où l'on va. Parfois l'angoisse nous prend le cœur. Parfois la personne qui dort à côté de nous est un étranger. Alors, moi je sors. Et je me commande un steak frites. Un bon gros steak. Avec des frites. Bordel! Y'en a marre de ce poisson grillé. De ces haricots verts. À mort le haricot. Vive la choucroute.
Un bon gros. Ça vous fait rire, François Allu?
La révolution du saucisson est en marche. Venez avec moi, vous roulez dans la paella, vous voterez dans le couscous, mes amis. Aux ordures et à la poubelle, ces oméga 3. On veut des graisses saturées, ras le cul de ce régime. Prenez des tubercules, des pommes de terre, vous savez, ces tubercules. Coupez-les en fines lamelles, plongez-les dans l'huile bouillante, salez-les, et vous aurez des frites. Ni Dieu, ni maître, mais des frites, bordel.
Vous vous attendiez pas à celle-ci, François?
Non, pas beaucoup, mais ça fait des... Il y a des images vraiment extraordinaires. J'imagine se rouler dans la choucroute.
Oh oui.
On pédale d'habitude dans la choucroute.
François, cette chanson en préambule, parce que je voudrais qu'on parle du gras. Et pourquoi je voudrais qu'on parle du gras? Vous allez me dire, mais pour commencer une émission estivale, oui, mais je sais, mais c'est parce qu'on va, les manger sur des terrasses, on va aller se goinfrer de hamburgers, de frites et de bière. Oh, que c'est gras, que c'est gras. Et j'ai lu récemment un article dans la presse qui disait qu'il y a en ce moment des gens qui nous disent « manger du gras, ça va vous faire maigrir ». Je me suis dit, il faut que je demande à Baruel. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a du sens, François?
Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens de manger. Ça n'a pas de sens de vraiment manger que du gras. Ou du moins, de dire « mangez du gras, vous allez maigrir ». En fait, ce qu'il faut faire, c'est le principe du régime, c'est de manger du gras, mais en supprimant tout sucre.
En plus.
Donc, ça veut dire que c'est un régime dissocié.
Bon, autrement dit, on mange des lipides, parce que c'est le terme, on enlève tous les glucides.
Voilà.
Mais il y a des glucides qui sont bons.
Bien sûr qu'il y a des glucides qui sont bons. Mais le principe, c'est de pomper tout le sucre qui est dans le foie, donc sous forme de glycogène.
Ouais.
Donc le foie est un véritable réservoir de sucre.
Ouais.
Donc on vide le foie de son sucre, on vide le sucre qu'il y a dans le sang, dans les muscles, et ensuite le corps est obligé de transformer le gras en énergie.
Mais c'est grave.
Donc
on
mange le gras, on mange son propre gras. Ça, c'est la théorie. On se met en cétose. C'est-à-dire, d'ailleurs, on a une haleine acétonique et on se retrouve en acidose. Et on peut être en acidocétose, qui est un peu dangereux parfois, c'est parce que ça a des risques quand même, ce régime-là.
Ben oui.
Alors, on mange son gras, mais dans le principe, on oublie aussi de dire qu'on mange ses muscles.
Voilà.
Parce qu'en réalité, le sucre est l'aliment le plus simple et le plus naturel et le plus évident pour le corps.
Bon, alors autrement dit... Quand ces gens-là nous disent, parce que c'est vraiment ce que j'ai lu, c'est que parce qu'eux, ils ont pour leur dire, et ça fait réfléchir, ils ont pour leur dire qu'aux États-Unis, on leur a enlevé les corps gras, par exemple, dans les yogourts légers, etc., mais on a gardé le sucre. Et que c'est pour ça qu'ils avaient tous un problème de poids, parce qu'ils ne mangent pas assez de gras et trop de sucre.
En fait, c'est qu'ils mangent simplement trop de sucre. On mange maintenant 250 grammes de sucre par jour, au lieu de 25 grammes il y a juste le siècle dernier. C'est simplement une question de trop de sucre. C'est une question de bon sens.
Mais oui.
Il faut avoir un régime qui soit assez régulier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une partie de sucre, une partie de gras, une partie de protéines.
Ouais.
C'est comme ça qu'on vit. Hein. On ne peut pas s'amuser à vivre seulement avec un truc.
Mais où est-ce qu'on est mieux d'aller les chercher, ces glucides-là, ces sucres-là, autrement dit?
Les sucres, il vaut mieux les manger dans les fruits frais.
Oui.
On peut les manger aussi, il y en a aussi dans les légumes, hein, des fruits. Des sucres, on peut les trouver, on les trouve à peu près partout.
Mais oui, bien
sûr. En réalité, il y en a à peu près partout.
Ouais. Donc c'est vrai ce qu'on dit.
Il ne faut pas mettre de sucre ajouté.
C'est-à-dire, c'est ça.
Pas de sucre dans le café.
Enfin,
on peut mettre du sucre dans le café.
C'est
mais il ne faut pas mettre 25 sucres dans le café. Il
ne
faut pas boire des sodas.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On arrive, on arrive à l'histoire de la maladie du soda, qui est en fait un foie gras humain.
Ah oui.
C'est pas autre chose que du foie gras. On mange tellement de sucre que le foie finit par se gorger de sucre et transforme ça en gras.
Bon. Alors là, j'ai une question pour le médecin aussi. Comment se fait-il qu'on laisse passer des hérésies comme celle-ci ? C'est-à-dire qu'ils sont... Ces gens-là, ils ont pignon sur rue, hein ?
Avec le régime, le régime...
Entre autres, mais avec celui-ci. Mais regardez, moi qui vous parle, il n'y a rien que je n'ai pas fait. Alors, et ces gens-là, ils ont... Comment se fait-il qu'ils ne sont pas, en quelque part, même poursuivis ? Enfin, je veux dire, ils sont...
Eh bien, ils sont poursuivis.
Ils sont poursuivis ?
Oui, je ne citerai pas le nom, mais il y en a un, dernièrement, il y a 3 ans, il y a un médecin français qui a été tout de même rayé de l'ordre pour avoir proposé des régimes totalement dissociés que de grandes de grands noms suivaient, des personnalités politiques, des personnalités du showbiz, etc., qui ont réussi à perdre du poids. Parce que de toute façon, quand on veut perdre du poids et qu'on fait attention à perdre du poids, bah, on en perd si réellement on fait attention. C'est pas le régime lui-même qui est important.
Ok, je voudrais en revenir au gras. Il nous reste un petit 2 minutes, François. Les gras comme les sucres, on parle de bons sucres et de mauvais sucres, et on parle aussi de bons et de mauvais gras. Par exemple, je reviens à ce papier-là, là, les gens qui sont pro-régime cétogène, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, vous disent carrément manger du foie gras, manger du bacon, manger de la saucisse, manger des fromages bien gras, parce que c'est vraiment ce qu'on nous dit, parce que de toute façon, c'est pas vrai que ce sont des mauvais gras. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi un mauvais gras ?
Le mauvais gras, il y a 2 sortes de gras. C'est vrai qu'il y a le bon et le mauvais. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit longtemps et ce qui a été exagéré pendant très longtemps pour pousser les patients qui avaient un peu trop de cholestérol, petit chouïa trop de cholestérol, de prendre des médicaments.
Ah voilà.
Bon. Et ensuite, on s'est aperçu que ces médicaments avaient des effets secondaires qui étaient assez fréquents et assez importants. Donc, on s'est dit, mais au fond, le gras, c'est peut-être pas si mal. Au fond, est-ce qu'il y a vraiment une importance de donner ces statines,
C'est le nom. Hein.
Et on s'est aperçu qu'il fallait donner des statines uniquement aux gens qui avaient fait des infarctus du myocarde ou des maladies cardiovasculaires qui étaient avérées. Mais là, c'est pas nécessaire, en fait. Donc, maintenant, c'est le balancier inverse. On se dit... Mais au fond, si ça servait à rien les statines, tous les gras sont bons. Mais en fait, il faut du bon sens. C'est vrai qu'il y a tout de même un bon et un mauvais gras. Donc, c'est pas la peine de se gorger de bacon, parce que que ça, c'est pas très bon quand même.
Non, c'est sûr. Voilà, Autrement dit, il y a de la récupération partout.
Bien sûr.
Même d'ailleurs dans les produits santé.
Je
pense qu'on est d'accord là-dessus.
Tout
donc,
à fait.
François. Alors, si on veut maigrir, on sait ce qu'on a à faire, les chéris, on va courir un petit peu. Ou alors, si on veut rester, on va faire maigrir et rester en bonne santé. On va dire comme Churchill, vous connaissez ça. À un moment donné, on avait demandé à Churchill, on lui avait dit, mais dites-moi, quel est le secret de votre longévité, de votre santé ? Et Churchill avait répondu, le sport, je n'en fais jamais.
Ciel sans nuages, j'ai le cœur en voyage, j'ai envie de ma vie. Je ressassais des idées sombres, du côté du mur à l'ombre. Tout a changé, plus rien n'est pareil. J'ai sauté du côté du soleil. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger, comme une fleur en plein cœur. Cette envie de valser, un air d'été, tout léger, comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances. Thank you. mon chien se mourait d'ennui. Je me traînais les pieds en retard à l'arrivée. J'éprouvais mes amis. Depuis je ne parle plus, je chante. Je ne marche plus, je danse. Tout a changé, plus rien n'est pareil. J'ai sauté du côté du soleil. Un air d'été, tout léger, comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances.
Et voilà, Canalem, nous sommes sur Canalem et c'est l'émission Aime l'été, car c'est maintenant l'été. Nous sommes avec Geneviève Labrecque. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Elle est directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Qu'est-ce que c'est votre organisme?
En fait, le regroupement pour la trisomie 21, c'est un organisme communautaire situé à Montréal qui existe maintenant depuis 32 ans, qui vient en soutien aux familles ayant un enfant qui a la trisomie 21. Donc, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant par le vieillissement des personnes.
J'imagine que vous êtes particulièrement occupée pendant l'été?
En fait, cet été, on est particulièrement occupés, oui. C'est pas toujours comme ça. Mais nous, pendant l'été, on a des activités pour les jeunes adultes qui ont une trisomie 21, qu'on appelle le Montréal Estival. Donc, faire des activités dans la ville de Montréal, faut avoir 18 ans et plus pour participer. Et l'idée derrière cette activité-là, c'était de faire des activités qu'on ne veut pas faire nécessairement avec nos parents quand on a 18 ans. Mmh. Donc, on a une soirée, on va dans un bar karaoké, chanter des chansons en gang avec nos amis.
Ça, c'est sympa, ça.
Très populaire chez nous. On ne peut pas ne pas mettre cette activité-là au programme. Et c'est le genre d'activité qu'on ne veut pas faire quand on a 18 ans avec ou sans trisomie 21, qu'on ne veut pas faire avec nos parents, on veut faire avec notre gang de chums.
Mais
donc,
oui.
On leur a préparé plein d'activités comme ça pendant l'été.
Et qu'est-ce que c'est le grand défi caritatif de votre association?
En fait, le 25 août, pour la 11e édition, pour la 11e année, pardon, on tient la course 3-2-1 Go, qui est une course de levée de fonds et de sensibilisation. Oui, je vous en ai déjà parlé.
Oui, ben oui, on en avait parlé l'an dernier, mais il y a quelque chose de différent un petit peu. Hein,
oui, bien cette année, on a toujours le 5 et le 10 km et on a un 1 km et on a ajouté cette année un 2,5 km. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont la trisomie 21 qui courent, le 1 km. Et là, le 5, la marche est trop haute. Donc, on a décidé de créer un 2,5 pour faire comme un juste milieu. Et on a aussi beaucoup de frères, sœurs qui ont 8, 9, 10 ans qui disent « 1, là, c'est facile ». Fait que là, on donne un second défi. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement aux personnes qui ont la trisomie 21. L'année dernière, on avait autour de 1000 coureurs sur notre site au mois d'août, le 25.
Et c'était quel endroit?
Au Parc Maisonneuve. Un super parc pour faire de la course à pied. Il y a juste une petite côte, là, juste
pour
dire.
C'est ce que j'allais dire.
Sauf que quand on fait 10 km, on l'a fait deux fois, la petite côte.
Ah oui, c'est bien sûr. Hein, bien sûr.
Et on a la présence d'Alex Nevsky cette année qui va venir faire une petite prestation.
Est-ce qu'il va courir aussi? Non?
Je ne pense pas qu'il va courir. Il fait les tests de son pendant qu'on court. Il court d'une autre façon, en fait. Et notre porte-parole, Maxime Le Flaguet, là, qui va être encore avec nous. Donc, on est bien entourés.
D'accord. Et pourquoi c'est caritatif? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner pour vous?
Bien, en fait, pour nous, tous les gens qui s'inscrivent, le montant nous revient. Oui. Donc, c'est certain qu'on va chercher des fonds. On va chercher autour de 60 000 $ annuellement. Il y a des années mieux que d'autres, là. Puis on a des grands commanditaires aussi qui nous commanditent lors de cette journée-là.
Oui, mais votre association a besoin de quel budget?
En fait, c'est autour de 400 000 par année, sauf qu'on reçoit à peine 25 % du gouvernement. Tout le reste, c'est toutes des levées de fonds.
Donc, il faut vraiment y aller pour obtenir au moins ces 60 000.
On en a vraiment besoin pour répondre aux besoins des familles qui ont de plus en plus de besoins parce que, comme vous le savez sans doute, le système public en offre de moins en moins. Donc, on doit être présent.
On coupe dans les budgets un petit peu de tous les côtés.
Oui, exactement.
Est-ce qu'on a des espoirs de ce côté-ci, que ça s'améliore ou pas, Geneviève?
Moi, je suis une éternelle positive.
Yes.
Je me dis que le communautaire, pas juste notre organisme, il y a plusieurs organismes qui sont essentiels, qui répondent aux besoins des familles, qui sont là pratiquement tout le temps et qui sont souvent plus réguliers que le système public. Donc, je pense que les organismes communautaires ont besoin de financement et ont une raison de vivre. Si on devrait en donner un petit peu plus aux organismes.
On peut donner comment? Et on donne combien? Et qu'est-ce qu'on y gagne?
Donner fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'offrir à quelqu'un. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller sur notre site internet trisomie.qc.ca. Tout est expliqué, comment faire un don, comment soutenir. Si vous voulez participer à la course, vous cliquez à la course, ça vous amène sur le site d'inscription. Et si on s'inscrit avant le 8 juillet, on a encore les prix lève-tôt. À partir du 8 juillet, les prix augmentent un petit peu. Donc, ça vaut la peine de le faire maintenant.
Et si vous êtes généreux, on peut s'inscrire après, alors. Hein?
Ah oui, puis vous pouvez vous inscrire
jusqu'à
la journée même. Le départ des courses a lieu à 9h. À partir de 8h50, ça commence à être un peu serré pour s'inscrire. Et juste pour vous mentionner aussi que si on est une équipe de 5, ben la cinquième personne, c'est gratuit. Donc, on a un forfait pour les groupes ou les familles. Donc, ça vaut la peine.
D'accord. Pour les adultes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette course-là aussi. Et qu'est-ce que vous allez faire pour les adultes qui ont beaucoup plus de 20 ans?
Oh, en fait, en tout âge, nos activités sont pour tous, sauf par exemple les activités qui sont précisées pour les enfants de 3 à 5 ans. On a des cours d'éveil musical pour les petits, mais pour les adultes à l'année, on a un programme de septembre à juin qui s'appelle le programme TASA, qui est un programme pour ça s'appelle Technologie au service de l'autonomie. Donc, chaque adulte a un iPad et on essaie de leur apprendre à devenir autonome. Donc, ils font leur liste d'épicerie sur l'iPad, ils vont au supermarché faire leur épicerie. Tout ça accompagné par des intervenantes. Donc ça, c'est du lundi au jeudi. On a aussi en soirée le vendredi des activités sociales où on fait là, plein de choses. Là, on a une danse de l'Halloween, de Noël. On a des cours de cuisine aussi qui arrivent à ces moments-là. On a un cinéma maison, donc on prend un projecteur, on descend l'écran et on écoute un film en gang. Ils sont toujours une trentaine, fait qu'il y a de l'action à nos activités du vendredi soir, c'est vraiment chouette.
Et donc, il faut les encadrer, tous ces gens-là. Vous devez avoir aussi des besoins bénévoles.
Oui, tout le temps, on en a besoin. Et pas juste pour les activités, pour le conseil d'administration, pour des comités de financement, des comités de la course. On a toujours un besoin de bénévoles. On est seulement 5 employés permanents, donc les trois, autour de 250 bénévoles qui gravitent autour de nous, on en a vraiment besoin. Puis on les aime beaucoup, eux autres aussi.
Alors, on va peut-être rappeler, François, vous serez d'accord avec moi, le site précisément pour aller chercher toutes les informations, pour faire une différence dans la vie de tant de familles. Est-ce qu'on connaît à peu près le nombre de personnes qui sont touchées par la
Québec, coche un personne handicapée dans nos rapports, puis même dans les statistiques, on les a pas. Donc, on peut faire des extrapolations, mais on peut pas être certain du chiffre, là.
Non. Bon. Merci d'être là,
Geneviève,
pour toutes ces personnes. François, vous aviez autre chose à ajouter ou une autre question à poser?
Non, j'avais juste à ajouter simplement l'adresse courriel, peut-être.
On va la redonner. On les donne jamais assez.
Alors, c'est DG.
Exactement.
À commercial. trisomie.qc.ca.
Voilà. Comme ça, on peut vous écrire. Merci beaucoup, François. Merci, Geneviève Labrec.
Merci beaucoup.
Merci pour votre beau travail et bel été à vous toutes et
vous
tous.
À vous aussi.
Thank you.
Alors François, il nous reste quelques minutes pour éteindre cette première demi-heure de l'émission Aime l'été. On parlait de cinéma avec Geneviève Labrec, hein, parce qu'il y a parfois des films, hein, qui sont présentés. Parlant de cinéma, qu'est-ce qu'on a trouvé ce matin dans Le Devoir? Merci à Catherine Bourderon, notre recherchiste, qui nous a dégoté ça.
Elle nous a dégoté en fait une augmentation du nombre de productions de films produits au Québec.
Ah oui?
Ah oui, c'est une augmentation assez importante. Puisque nous en avons eu 61, alors qu'il y en avait 15 il y a 20 ans.
Oh.
Ce qui fait que c'est quand même quelque chose de très important.
Oui.
C'est une sorte de renaissance même.
Oui, mais c'est important de le dire parce que le nombre de dossiers qui sont déposés auprès d'organismes qui vont donner de l'argent, hein, bon, j'ai plus ça en tête, mais parce qu'évidemment, ça se finance, hein, tous ces films-là. Mmh. Et le nombre de refus, c'est absolument hallucinant. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de projets qui sont aidés, qui sont appuyés financièrement. Et c'est une bonne chose, entre autres pour la jeune génération de réalisateurs, parce qu'il y en a beaucoup. Avez-vous remarqué que le Québec est un bassin de talents absolument hallucinant, François?
C'est hallucinant parce qu'on voit un flux.
Ah oui,
quand on va à Paris, on voit le flux qui vient du Québec et qui arrive et qui traverse l'Atlantique.
oui, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui restent. Et puis moi, à chaque fois, ça me surprend toujours de voir dans tous les domaines à quel point les Québécois se font remarquer dans le bon sens du terme, culturellement parlant, que ce soit le cirque, la littérature, la chanson, la danse, écoute, la Human Step, c'est pas rien, Robert Lepage non plus. Bon, bref, on parle, mais on va se retrouver d'ici une petite trentaine de secondes avec d'autres invités, d'autres chroniques pour vous. Ça y est, c'est lancé, Aime l'été. Je vous rappelle que vous êtes sur Canal M, c'est Clotilde Seille en compagnie de François Baruel ce matin à l'animation. Canal M, Clotilde Saye et François Baruel à la tête de l'émission Aime l'été. C'est la suite. On va y aller avec une chronique culturelle et Maxime Despomerleau. Une chronique sociopop qui ne sera pas triste avec Benoît Racette. Et on va parler de la ville de Victoriaville. Mais pour nous amener en douceur et en musique, tenez, je vous propose ceci.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Et c'est lui le monsieur qui fait toutes les voix derrière, Bobby McFerrin, qui vient faire le festival de jazz, n'est-ce pas, Maxime Pomerleau, bonjour.
Oui, bonjour à vous. N'est-ce pas une excellente chanson pour se mettre de bonne humeur?
Oh ben, surtout en été.
Hein, vraiment.
Puis alors nous, en plus, jamais inquiets, toujours souriants, il n'y en a pas de problème, toujours heureux, nous aussi.
Exactement, exactement. Vous... Alors, ben voilà, je trouvais que c'était une belle introduction pour parler du festival qui, selon moi, symbolise l'été. C'est le Festival international de jazz de Montréal.
Oui.
Et la 39e édition commence ce jeudi, le 28 juin. C'est jusqu'au 7 juillet. C'est l'un des plus importants festivals de jazz en termes d'affluence au monde. Chaque année, il attire près de 2 millions de visiteurs, présente quelque 3000 artistes venant de plus de 30 pays différents et organise 600 événements musicaux. Alors, j'ai épluché la programmation pour vous. Et je vais me lancer. Donc, vu qu'une chronique, ça file quand même assez vite.
Oui, allez-y, lancez-vous.
Je me lance d'abord dans les spectacles extérieurs.
Oui.
J'ai noté des choses et ensuite, je vais aller dans les concerts en salle.
Mm-hmm.
Donc, les spectacles extérieurs pour la soirée d'ouverture le 28 juin sur la scène principale, on a Kick, Kick, Kick. C'est un groupe au nom imprononçable de la Californie, donc qui détruit les conventions à grands coups de riffs psychédéliques et de grooves dansants. Pour vrai, ça s'écrit 3 points d'exclamation. Alors, c'est un peu difficile à prononcer.
Bon.
Et donc, on y va plutôt du côté de l'électro pour cette ouverture.
D'accord.
Sur la scène de Bleury et René Lévesque, c'est Papa Groove, un collectif de musiciens jazz de Montréal qui font de l'afro-punk. Pas de l'afro-punk, pardon, de l'afro-funk.
OK, d'accord.
Sur la scène du monde, au coin Maisonneuve-Clark, il y a Bougat. Un artiste local coloré qu'on connaît très bien, qui mixe le hip-hop avec des beats latins, la salsa, le reggaeton, c'est toujours très festif. Donc, c'est les 3 concerts principaux en termes d'ouverture et ça donne vraiment le ton pour toute la programmation de l'événement. J'ai surtout relevé la présence d'artistes locaux. Mm-hmm. Alors, il y a Florence K qui va être en spectacle le 30 juin, Angel Forest également le 30 juin. Il y a Nomadic Massive qui est sur la scène principale le 2 juillet. C'est vraiment une belle réussite pour le collectif local, donc sur une très grande scène, la place des festivals. Mm-hmm. Il y a les Royal Pickles le 4 juillet.
Oh, que j'aurais du mal à le dire aussi, ça.
les cornichons royaux.
Ben oui.
Le jazz swing rétro, c'est des couleurs qui vous intéressent. Ils sont en spectacle plusieurs fois durant l'événement. Il y a aussi le 4 juillet, Stéphane Morail, qui est la voix iconique de Brandvan 3000, qui est sur la scène Rio Tinto au coin Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. Mm-hmm. Civil, le même soir. Il y a Pierre Quenders, qui est en spectacle le 6 juillet. Et la finale, le 7 juillet, donc toujours en spectacle extérieur, c'est The War on Drugs. Mm-hmm. C'est du rock contemplatif aux sonorités assez pop.
Bon.
Donc vraiment, ouverture, fermeture du côté de l'indie et de l'électro. Plusieurs artistes locaux sont en spectacle plus d'une fois, parfois le même soir, donc je vous invite vraiment à consulter la programmation pour connaître les dates. Et je voulais faire une petite aparté concernant l'accessibilité.
Ah, ben justement, on y allait. Là, avec François, on s'était fait un coup d'œil parce que est-ce que c'est un festival accessible?
Oui, c'est un festival accessible. La majorité des spectacles aussi intérieurs sont dans des salles accessibles, c'est ce que j'ai sélectionné. Et à l'extérieur, c'est l'équipe Spectra qui est responsable de l'organisation du festival, tout comme les Francopholies. Donc, les scènes sont vraiment très bien aménagées. Pour la scène principale de la place des festivals, la plateforme est très près de la scène du côté jardin.
Okay.
On y entre par la rue Balmoral. Et c'est possible de réserver sa place jusqu'à 48 heures d'avance pour les spectacles de 21h. Donc, on parle vraiment des têtes d'affiche en spectacle ce soir-là, en appelant au service Info Jazz. Et on conseille d'arriver 30 minutes avant le début du show pour s'assurer de garder sa place. Pour la scène Rio Tinto sur Sainte-Catherine, coin Jeanne-Mance, l'espace désigné est devant l'entrée du Musée d'art contemporain. Donc, on n'a pas besoin de faire de réservation, mais on peut vraiment se présenter sur place. D'ailleurs, pour l'autre scène aussi, même si on n'a pas de réservation, on peut se présenter. C'est juste que si on en a une, on a une place garantie.
D'accord.
Et durant les Franco, il y avait une scène pour la scène au coin Maisonneuve-Clark, il y avait un espace désigné dans le coin nord-ouest du parc, près de la rue Saint-Urbain. Je ne l'ai pas vu sur le plan affiché du jazz, mais je vous conseillerais d'aller vérifier quand même et de voir si cet espace-là est encore présent.
D'accord.
Selon moi, oui.
Bon,
quand
vous dites que c'est côté jardin avec une entrée, on n'a pas trop les oreilles dans les haut-parleurs, dans les enceintes? On n'est pas trop
Non, parce que c'est surtout dirigé vers la foule et on est quand même un petit peu à l'écart, mais vraiment, on voit très bien.
Bon,
c'est
parfait.
Un des meilleurs festivals pour vraiment la vue qu'on a de la scène, on fait partie du party. Il y a un accompagnateur qui peut venir pour chaque personne aussi. Et c'est une plateforme qui est assez large. Donc vraiment, moi, j'ai jamais été refusée non plus sur place.
On dit tout le monde dehors, c'est tout le monde.
Absolument, vraiment. Famille aussi, plein d'activités familiales et tout. Et je vais prendre quelques moments pour quand même aller du côté des spectacles
en région,
en salle.
Ah, en salle aussi, d'accord. Parce que vous allez nous amener en région aussi un petit peu, je pense.
Un petit peu, oui,
vers
la fin, il y a beaucoup de choses qui commencent le 28. Mais d'abord, ce soir, Festival de jazz, un pré-festival, si vous voulez. Il y a Slave, une odyssée théâtrale à travers les chants d'esclaves, une production de Robert Lepage, Ex Machina, avec Betty Bonifaci, au Théâtre du Nouveau Monde. Vraiment, ça commence ce soir.
Très fort.
Il y a des supplémentaires jusqu'au 14 juillet. Un superbe spectacle que je vous conseille d'attraper. Et je vous lance quelques artistes. Le 28 juin, il y a Seal, qui va être en spectacle à la salle Wilfrid Pelletier. Le 29 juin, qui dit festival, dit dilemme, évidemment. Faut choisir entre Metronomy au MTLUS, Gan Arden et Martha Rainwright à la salle Wilfrid Pelletier. Et Olafur Arnaz et Jean-Michel Blais, donc vraiment des pianistes et multi-instrumentistes qui seront en plateau double à la Maison symphonique. Ça va être quelque chose.
Bon.
30 juin, La musique des films DreamWorks, si vous aimez ça, Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar. Donc, on remet les films et un orchestre va interpréter les pièces emblématiques de ces
c'est
films.
C'est vrai.
Donc, donc, moi, je m'habille en princesse et j'y vais.
Ah, voilà.
De toute façon, vous êtes toujours habillée en princesse, Maxime.
Ah, c'est ça. Et il y a George Thorogood qui est en spectacle aussi le 1er juillet, donc bien connu pour son hymne Bad to the Bones. Il y a Random Recipe, qui sont des habitués qui viennent au Club Soda le 4 juillet. C'est vraiment une ambiance de club, mais beaucoup de femmes sur scène aussi, de la scène locale montréalaise, donc à voir. Il y a aussi Bonobo et Saint-Germain. Bonobo qui avait attiré une foule monstre au festival Igloofest 2017. Okay. On est dans le vrai électro. Et c'est à la salle Wilfrid Pelletier.
D'accord.
Je ne sais pas comment les gens vont rester assis et survivre à l'envie de danser. Mais ça va être quelque chose. Et en terminant, le 7 juillet, il y a notre Bobby McFerrin, qui va être à la Maison Symphonique avec une chorale gospel pour interpréter les pièces de son album Circle Songs, qui a sorti il y a 20 ans. Donc, il est dans cette tournée internationale-là. Ça va être vraiment mémorable.
D'ailleurs, j'avais prévu éventuellement de mettre une chanson de Bobby McFerrin, notamment lorsqu'il avait interprété un extrait d'une symphonie de Tchaïkovski, où il fait toutes les voix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était absolument gigantesque. Mais finalement, j'ai choisi d'autres personnes qui vont se présenter au festival de jazz. Maxime, on n'a vraiment plus le temps. Mais ça fait rien, vous allez revenir pour nous parler de ces festivals-là en région, parce que le temps nous manque un petit peu. En complément de programme, cher Maxime, je voudrais préciser que notre indicatif de cette année, comme l'an dernier, est signé Christine Tassan et les Imposteurs. Et Christine Tassan et les Imposteurs qui ont reçu un prix Opus l'an dernier pour le meilleur spectacle de jazz, qui était en nomination cette année pour le meilleur album. Je pense que c'est le contraire. Elles ont reçu meilleur album et elles étaient en nomination pour le meilleur spectacle. Elles seront en spectacle le 6 juillet à 20h dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. C'est à la place SNC-Lavalin, Angle de Bleury et René Lévesque. Voilà, cher Maxime, merci beaucoup pour cette chronique culturelle portant sur le Festival de jazz. Merci. Bonne journée.
Un grand plaisir. Bonne
merci
journée.
Beaucoup.
Au revoir, salut. Thank you. Ne sont-elles pas ravissantes et charmantes, hein, ces quatre filles? Ce sont les seules filles, le seul groupe en Amérique du Nord à faire de la musique manouche. Et là, elles ont eu la bonne idée de marier Django Reinhardt à Félix Leclerc.
Ben, c'est superbe. Bonjour Benoît.
Bonjour. Très content d'être amené comme ça par des femmes si près de l'été.
Et oui.
Oui.
C'est le début.
Alors, c'est le début.
Et pour tout l'été, vous allez nous concocter des petites chroniques hebdomadaires.
Oui, des sociopop. En fait, oui, tout simplement. On va faire popper.
Oui.
C'est le bon terme, des recherches, des concepts de la société. Donc, le but, évidemment, c'est de les vulgariser, d'avoir du plaisir, rester estival, mais se cultiver un petit peu.
Oh. Bonne idée.
Oui.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être?
Je vous parle de rien de moins que le manteau inclusif.
Manteau d'hiver?
Le manteau d'hiver, hein, c'est le
en
bon
plein
moment.
Été. Bravo!
Voilà! Non, mais je cherchais à vous émoustiller, là, justement.
C'est une bonne idée.
Mais c'est important, c'est un mémoire sur lequel je me base qui est vraiment intéressant. Je vous lis quand même le titre.
Ouais.
Donc, le vêtement, outil d'inclusion sociale pour femmes baby boomers en situation d'handicap, potentiellement situation d'handicap et en processus de vieillissement, le manteau d'hiver. Hein, c'est un long titre.
Mmh.
Et souvent, effectivement, les manteaux d'hiver sont longs, donc ça va bien. Mais vous comprenez que dans ce mémoire-là, on s'adresse surtout aux femmes. Je veux pas être sexiste, là, mais c'est ce qu'on dit. Évidemment, il y a un marché pour ces femmes qui peuvent vieillir, qui vieillissent, évidemment. Mmh. Le corps change. On peut avoir présenté des difficultés à la marche. On peut vivre des maux ordinaires là, d'arthrose. Ou tout simplement, on a plus de chance avec le temps de devenir en situation d'handicap. Mmh. Donc,
Je comprends bien, mais absolument. C'est vrai que ça me paraît être quelque chose de très ténu que de se dire un manteau,
non.
D'un manteau inclusif.
Non, ben voilà, elle arrive avec ses 177 pages, hein, elles sont nombreuses.
Ah oui,
d'ailleurs, on a hésité à les imprimer, puis
non.
On a hésité.
On aurait pu se faire quelques manteaux de fortune avec ces pages.
Je crois, ouais.
Mais c'est important, elle cible d'abord ce groupe, parce que sur le plan du marché, parce qu'elle vient de la mode, Ghislaine Grenon, hein, qui a déposé ce mémoire à l'Université de Montréal, elle vient de la mode, mais elle propose quelque chose à la faculté d'aménagement pour parler de design universel, donc un design qui s'adresse à tout, que ce soit pour l'environnement ou dans les choses qu'on produit. Donc, cette femme-là nous rappelle qu'il y a un marché et c'est étoffé, là, elle le démontre. Il y a de plus en plus de femmes qui vieillissent, leur corps change, mais elles veulent garder des beaux vêtements et surtout, elle va plus loin. Elle dit que quand on n'a pas de manteau d'hiver, c'est un facteur d'isolement. Pour une personne, par exemple en fauteuil, bien sûr. Mais quelqu'un qui est difficile parce qu'on ne peut pas se promener partout, on a froid, on n'est pas sûr du regard des autres. En tout cas, bref, c'est très intéressant, là, je vous le dis, en beaucoup de pages. Mais l'intérêt, c'est qu'elle débouche avec des entrevues avec quatre femmes baby-boomers sur des critères qui vont peut-être inspirer les producteurs, concepteurs de manteaux divers. C'est ça qui est le fun. C'est ça la retombée directe de cette étude-là.
Et alors, c'est quoi ces quatre femmes?
Ah, ça, c'est important. Ce sont de belles histoires, des belles femmes. En fait, elles sont quatre. Elles ont un nom d'emprunt, évidemment, parce qu'il y a confidentialité qui vient avec le fait de participer avec une recherche. Mais il y a Mo, qui est une artiste visuelle, qui est enseignante, professeure, semi-retraitée. Elle est née en 47. Elle est veuve depuis quelques années, mais elle est en banlieue, mais elle est surtout très active. Hein? Elle enseigne toujours encore, elle fait des courses, elle voit ses amis, tout ça comme n'importe qui, mais comme souvent, les femmes baby-boomers se réclament, là, libres et pleines d'amis. Et surtout, elle commence à avoir des limitations d'activité. Alors, c'est important parce qu'elle a subi une intervention chirurgicale au genou il y a quelques mois, donc elle présente des difficultés à marcher. Alors, le manteau doit être capable de demeurer joli, mais de l'accompagner dans sa marche qui est plus difficile. Il y a aussi Fleur, qui est une femme qui a des difficultés à se vêtir parce qu'elle a une bursite. Et plus loin, il y a d'autres femmes aussi qui présentent des difficultés à la lecture, qui ont mal au dos, tout ça. C'est la vie, vous savez, docteur, apporte son lot de difficultés. Alors, il faut que les vêtements s'ajustent. Et c'est là qu'elle déploie, la chercheuse, à l'aide de d'autres études qui existent déjà, des critères pour des vêtements adaptés et inclusifs. Donc, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais il y a sept critères super intéressants auxquels il faut faire attention. Mm-hmm. Entre autres, la flexibilité de l'utilisation. Donc, peu importe là, si on a un côté gauche qui marche moins, tout ça, on doit être capable de l'enfiler sans problème. La simplicité et l'intuitivité. Il ne faut pas de manuel d'instruction pour mettre un manteau adapté. Aussi, la perception de l'information, les gens qui nous entendent peuvent être parfois aveugles ou présenter des difficultés à voir. Donc, il faut que l'information, peut-être sur le matériel ou autre chose, soit accessible, etc.
Mais c'est vrai ce que vous me dites.
Oui.
C'est que le nombre de fois que j'ai vu dans mes patients des personnes âgées qui avaient un manteau qui était à la mode,
oui,
mais avec un long zip qui se terminait sous le genou.
Oui.
Ils n'arrivaient jamais à le faire. Je le faisais moi-même.
Exactement.
J'étais obligé de leur fermer leur manteau. Sinon, ils n'y arrivaient pas.
Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que le prochain critère, effort physique faible,
oui,
est important. Donc,
ben
il faut,
oui,
être capable de le faire.
Oui.
Et il faut aussi qu'il soit facile à utiliser. Bref, ces critères-là, c'est d'autres et elles qui les ont développés.
Oui.
Mais en point d'or, peut-être, à cette chronique, je pourrais vous dire, parce qu'elle en témoigne dans sa recherche, on parle bien sûr, juste rappeler son nom, là, Ghislaine Grenon, c'est vraiment un travail exceptionnel qu'elle a fait. Donc, elle parle aussi de vêtements inclusifs ou adaptés qui existent. Alors, je vous nomme les boîtes. En France, il y a Selfia, qui fait des vêtements faciles à enfiler, confortables et chics. Il y a Chris Embrace, un designer qui est déjà venu à Montréal, d'ailleurs, qui fait surtout des vêtements pour les personnes en fauteuil, mais qu'on peut porter même quand on n'est pas en fauteuil, avec un système de fermeture éclair qui est vraiment très ingénieux et très beau. Au Québec et dans le reste du Canada, il y a aussi des alternatives. On pense ici à Carré Technologie, qui est plus des vêtements pour l'activité physique quand même. Easy Camilleri, pour les personnes en fauteuil, qui est, ça, c'est produit à Toronto. Il y a Création Confort. Ça, peut-être, la chercheuse en parle. C'est pas aussi joli et convivial que d'autres trucs, mais c'est confortable et c'est possible pour les personnes âgées. Et d'ailleurs, on voit beaucoup les personnes âgées dans les publicités. Et finalement, Milo, donc, qui propose des vêtements adaptés.
C'est terrible. Milo, quand on pense ça, on pense à la Vénus de Milo.
Oui.
Oh! C'est terrible.
Ah, j'avais pas entendu, j'avais pas vu.
Il y avait Pierre Desproges, le regretté Pierre Desproges,
ouais,
le français à un moment donné, qui avait présenté des petites capsules à la télévision. Puis à un moment donné, il y a un petit garçon qui est devant la Vénus de Milo. Puis le petit garçon lui tend un papier, un crayon. Évidemment, c'est une fausse Vénus parce que c'était joué par Desproges. Et le petit garçon tend là et il fait « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Et la Vénus de Milo lui fait « Casse-toi, petit con. »
Ah, c'est joli, ça! Mais je vais quand même vous suivre parce qu'il est possible de ne pas avoir un bras,
bien
mais
sûr,
d'aimer l'art. Et
oui,
peut-être que les vêtements,
oui,
peuvent être
fait,
aussi jolis pour répondre
pourquoi
à ces
pas
besoins hédonistes qu'on a tous, et notamment les femmes baby boomers. Mais il faut que ça soit fonctionnel. Il faut continuer d'être protégé de l'hiver. En tout cas, je vous dis ça en plein été.
Benoît Arcette, j'adore le psychopop.
C'est le sociopop, mais c'est en référence. C'est justement pour
c'est
faire
ça,
écho à la psychopop, on a le droit de faire un peu de sociopop. Pop, pop.
Merci beaucoup.
Merci Benoît.
Merci.
Et vivement la prochaine. Il nous reste quoi, une petite minute. J'ai envie d'émailler ces émissions, quelquefois, de petites expressions. Moi, je vais en prendre des françaises, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, mais
oui,
je vais aussi demander à des copains québécois de nous en amener,
oh oui,
des québécoises,
serait,
pour
oui,
nous expliquer d'où ça vient. Et par exemple, Comté Fleurette.
Ah.
Savez-vous d'où vient Comté Fleurette? Eh bien, c'est une expression désuète, évidemment, qui nous vient du XVIIe siècle, à une époque où, en termes galants, ces choses-là étaient dites, et où déjà les fleurs étaient fortement associées à l'amour et au romantisme. Plusieurs origines ont été proposées pour cette expression, mais celle généralement retenue par les lexicographes vient d'une métaphore où fleurette, qui s'écrivait d'abord florette, comme Jean de Florette,
oui,
et voulait dire petite fleur au XVIIe siècle, correspondait à quoi ? À bagatelle ou baliverne au XVIe siècle. Alors les fleurs d'un côté, les balivernes de l'autre, et voilà un raconté des balivernes, le discours du chasseur masculin qui endort sa proie féminine, qui
mieux,
prend
là
la forme de Comté Fleurette. Et vous savez ce que c'est devenu Comté Fleurette chez les Anglais ?
Flirter.
To flirt. Autrement dit, flirter n'est pas un anglicisme, mais c'est vraiment, comment on dirait, un francisme, un franquisme,
ou
bref.
Un franco-anglicisme. Moi, j'aurais pensé que Comté Fleurette, c'était juste retirer les pétales. Je t'aime
ben
un
non,
peu beaucoup.
Eh bien non, mon ami. Restez là. On va revenir dans quelques secondes.
Vous écoutez Aime l'été.
avec François Baruel et Clotilde Seille. Et dans quelques instants, je voudrais vous amener à Victoriaville. Pourquoi Victo? Ben parce que c'est une ville que je connaissais mal et que j'ai eu récemment l'occasion de découvrir. Et j'ai envie que vous aussi, vous fassiez cette découverte-là. Et il s'avère qu'en plus, j'ai un grand, grand ami à moi qui vit là-bas, qui est quelqu'un que j'adore et qui m'a dit « Mais tu sais, moi, je suis guide à Victoriaville. » Ben j'ai dit « C'est parfait, tu vas être guide de Victoriaville à l'émission Aime l'été, c'est Benoît Rowe, pardon, parce que moi j'appelle toujours Benoît de toute façon, j'ai rarement l'occasion de l'appeler par son nom. Restez là, on parle de Victoriaville dans quelques minutes. Pas par hasard, hein, si notre ami Jean-Sébastien, sacré Jean-Sébastien, nous a choisi une chanson de Dumas, puisque Dumas vient de Victoriaville et on s'embarque à Victoriaville. Bonjour Benoît Rowe.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Bien mon ami, bien. Bon. Alors Victoriaville, c'est votre fief, hein, c'est le lieu de votre naissance et oui. C'est là où vous êtes revenu.
C'est la terre de mes ancêtres et où je suis revenu après 31 ans, où je me suis promené au travers de la province et puis bon, j'ai eu le goût de revenir là où tout a commencé et je redécouvre une région et une ville absolument magnifiques. Vous savez que Victoriaville est située au centre du Québec.
Oui.
À partir de Victoriaville, en 1h30 à peu près, vous atteignez 80% de la population du Québec. C'est pas rien. Alors, quelqu'un qui dit allez, Victoriaville, c'est loin, c'est long, c'est de raison. L'autoroute 20 vous y mène et puis plein de petites routes panoramiques qui sont charmantes qui nous amènent là.
Oui.
Alors, donc j'y suis retourné, évidemment pour des raisons de famille, mais aussi pour le fait que Victoriaville est devenue au fil des ans une ville absolument inclusive.
Oui.
Et c'est intéressant parce que de constater que les différentes administrations qui se sont succédées ont eu comme projet commun d'améliorer l'ensemble des services offerts à la ville pour l'ensemble de ses populations.
Oui.
Quelle a été la motivation de ça, de cette évolution?
C'est intéressant de constater que finalement, la motivation vient probablement de la population qui a laissé entendre à ses administrateurs qu'il fallait peut-être qu'ils se fassent des choses, qu'ils se passent des choses pour améliorer la qualité de vie. Alors, c'est comme un cercle,
vertueux.
J'allais dire vicieux,
ouais,
mais ouais. Heureux.
Heureux,
hein?
Oui.
Vertueux.
Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les administrateurs ont eu l'intelligence à chaque fois de procéder par consultation. Donc, il s'est créé une politique des aînés,
oui.
Une politique des personnes à mobilité réduite, une politique pour les jeunes. Rapidement, il s'est créé un mouvement qui s'appelle HOP, la ville, H-O-P, la ville. J'entendais tout à l'heure des gens qui sont venus à votre tribune, puis parler d'inclusivité par exemple, des personnes trisomiques.
Oui,
c'était
oui,
votre première
oui,
invité,
oui,
je pense.
Oui.
Bon, eh bien, chez nous, il y a une journée par mois, tous les plateaux culturels, sportifs, quels qu'ils soient, sont gratuits. Il y a un système de transport adapté pour amener tous les gens sur les plateaux pour faire du sport, parce que, hop, la ville, ça veut dire bouger, bien manger, ça donne un équilibre. Alors, encore une fois, je reviens à votre question. C'est comme si le besoin venait de la population, parce qu'il faut bouger, parce que vous savez, l'âge moyen...
En plus, c'est un bel exemple de démocratie.
Autre exemple, peut-être que je saute...
Non,
mais je reste toujours dans la ville inclusive.
On vous suit très, très bien.
Il y a 2 ans, par exemple, il fallait refaire complètement le centre-ville de Victoriaville. Je pense, Clotilde, vous êtes allée peut-être faire un petit tour là, lors de votre séjour. Bon, c'est un projet qui s'est... qui a duré peut-être 3 ans, là, mais la population a été consultée. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir?
Ouais.
Alors, ça a donné un résultat fabuleux où les trottoirs ont disparu, ils se sont abaissés au niveau de la rue. Donc, on comprend que les personnes à mobilité réduite ont toutes les facilités du monde à circuler. Il y a un mobilier urbain qui s'est créé, un design fabuleux. Ouais. Et petit détail, c'est peut-être l'architecte en moi qui a vu ça, là, mais les bancs, plutôt que d'être parallèles à la rue, sont retournés et ils se font face. Donc, si tu es assis sur un banc, tu as quelqu'un en avant de toi à qui tu parles.
Mais oui.
Et tu ne textes pas. C'est des petits détails, mais c'est quand même amusant. Et la verdure envahit la ville de Victoriaville. Au centre-ville, comme dans toutes les municipalités de cette grandeur-là, parce qu'on est 46 000 à peu près de population, là, il passait une voie ferrée avec un rond-point où tout arrêtait quand le train passait, puis bon, etc. Et quand le train a décidé de passer ailleurs, bonne décision, la ville a récupéré l'espace et en a fait un sentier pour vélo, pour véhicules, je ne sais pas exactement le terme, mais véhicules adaptés pour les personnes soit âgées ou soit à mobilité réduite. On a 77 kilomètres de ces sentiers-là, asphaltés ou gravelés, qui tournent autour de la ville, dans la ville. Alors, on peut partir d'une résidence, par exemple, qui est au nord de la ville. On peut descendre au centre-ville, se promener sans aucun obstacle. Il y a des services d'hygiène, par exemple, un peu partout dans la ville pour accommoder les gens. Mm-hmm. Et ça, ça nous a valu un prix en 2017,
qui roule,
l'organisation qui travaille avec Tourisme Québec.
Oui.
On a quand même obtenu un prix 3 étoiles pour être une destination accessible. Et au-delà de ça, vous savez aussi que Victoriaville, c'est le berceau du développement durable.
Oui, ça j'avais hâte que vous nous en parliez aussi.
Puis évidemment, le développement durable, c'est nous qui sommes déjà là, on utilise raisonnablement les ressources qui sont mises à notre disposition, tout en faisant en sorte que les générations qui vont suivre vont pouvoir aussi s'autosuffire avec toutes les ressources. Donc, on leur en laisse, mais on leur laisse aussi la possibilité de développer d'autres ressources. C'est ça qui est fascinant. Et quelques exemples. Il y a un sentier, il y a un jardin des rencontres qu'on appelle, mais qui a provoquer une multiplication de ces petits bacs. Là. Uh-huh. Le Jardin des rencontres, c'est un endroit où on fait de la culture de toutes sortes. Il y a une forêt, oui. Il y a un potager, puis il y a aussi un ensemble de fruits, d'arbres fruitiers comme cerisiers, pommiers, etc. Et la ville, avec des jardiniers, des étudiants l'été, plante des légumes. Mm-hmm. Et les gens font de l'auto-cueillette.
Ouais.
C'est gratuit.
C'est génial.
Alors, ça a commencé par un petit jardin. Ouais. Ben là, il y a 100 endroits dans la ville.
OK.
Il y a des entreprises qui ont décidé de faire 3 bacs en avant de l'entreprise, puis qui font pousser des carottes, des pommes de terre, puis je ne sais pas quoi, là.
Ouais.
Alors, ça aussi, c'est du développement durable, parce que...
Bien sûr.
En fait, le recyclage a commencé chez nous, hein?
Bien sûr.
Ça m'amène sur une autre voie. Mais le recyclage avec M. Normand Maurice,
oui.
Qui est un homme absolument extraordinaire, qui malheureusement, qui nous a quittés trop vite, mais... M. Maurice a mis sur pied ce qu'on appelle des CFER. Je vais m'assurer de la bonne définition. Là. C'est des centres de formation en recyclage, okay, pour des entreprises en recyclage. Uh-huh. Ben, M. Maurice a eu la brillante idée d'aller chercher des étudiants qui étaient moins adaptés,
okay.
Des étudiants qui avaient peut-être besoin de plus d'attention, mm-hmm. qui auraient sans doute eu des difficultés sur le marché du travail par la suite. Les a intégrés parce que la question du recyclage se posait. Qu'est-ce qu'on fait de tous
bien
ces
sûr,
produits? Hein?
Bien sûr.
Et lui a eu l'idée de, bon, on transforme, on récupère, on fait autre chose avec. Et ces jeunes-là sont formés pour venir en aide dans les entreprises pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de pertes, qu'on puisse réutiliser davantage les ressources qui sont là. Donc, encore une fois, faire en sorte qu'on sauve des ressources pour en offrir davantage aux générations qui vont suivre. Alors, les CFER, ben, il y en a 17 maintenant au Québec. Hein? Tout ça a commencé à Victoriaville. Alors, c'est une magnifique région où il se passe beaucoup de choses. Mmh. Puis j'aurai, je pense, le plaisir...
De revenir pour
oui,
nous en
vous parler d'autres thèmes.
Oui.
Mais dans le fond, c'est le berceau de Wilfrid Laurier, par exemple.
Oui, c'est ça.
Bon. Et les peintres, il y a Suzor Côté qui vient de chez nous.
Et le mot Arthabaska qui
le mot Arthabaska,
aller, c'est
un
magnifique.
Mot abénaki qui signifie, bon, qui disait Ayabaska et qui signifie là où pousse le jonc. Le jonc, on comprend,
le
jonc, c'est l'osier.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est magnifique. Alors, tout ça s'est développé, puis aujourd'hui, ben, on est 46 000 de population, puis on est tout près de tout.
Et vous comprenez pourquoi, François et tous les auditeurs, vous comprenez pourquoi j'ai invité Benoît Raux à venir nous parler de Victoriaville et du centre du Québec.
Oui, on pourrait l'entendre des heures.
Ah, mais c'est ce que d'ailleurs moi je lui ai dit. Vous savez, Benoît, vous allez avoir envie de nous parler pendant une heure. Mais ça va nous donner l'envie de vous retrouver et vite.
Bien sûr.
Hein?
Bien sûr. Alors je serai là. Est-ce qu'on parle du thème? Non, pas tout de suite.
Oh, ben si vous voulez.
Bon. En fait. Je veux vous parler de Victo, mais sous tous ses aspects.
Okay? D'accord.
Alors, la prochaine fois, on va parler de Victo comme étant ville culturelle.
D'accord.
OK? Alors, on apporte toutes sortes de bonnes choses qui se passent chez nous et je vous invite à venir nous voir.
Il s'appelle Benoît Raux et seriez-vous surpris si je vous disais qu'il est aussi guide touristique à Victoriaville? Merci, Benoît, infiniment.
Merci.
Merci
beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci de votre accueil. Je suis un vieux, elle a un an.
carte d'identité. Ouh, il n'y a rien de marqué. Non, il n'y a rien de marqué. Seigneur, quand je serai baptisé, je porterai mon nom haut et fort avec fierté. Partout sur la planète, je vais le répandre. Tous les hommes de la terre l'auront sur le bout de la langue. Et quand viendra
Mon petit Jean-Sébastien.
Oui, Clotilde.
Qu'est-ce que c'était? Qu'écoutions-nous là?
Nous écoutions Damien Robitaille de son album Homme Autonome. La pièce s'intitule Mon nom.
Merci infiniment. J'aime ça quand vous intervenez comme ça de l'autre côté de l'aquarium.
Mais faut pas gêner, je suis toujours là.
Quel joli poisson vous faites. Faites-moi penser à donner des petites graines avant de partir. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour l'excellence de votre travail comme toujours. Dernière chronique pour aujourd'hui, une chronique littéraire. C'est un petit peu le prolongement de l'émission des livres pleins les oreilles. J'ai oublié de vous signaler peut-être que nous souhaitons aussi ici à MLT, à cette émission-là, pouvoir vous donner un aperçu de ce qu'est la saison régulière à Canal M, de toutes nos préoccupations, de toutes ces missions, ces buts que nous nous donnons, et notamment dans l'émission des livres pleins les oreilles, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hélène Gauthier, qui est bibliothécaire au SQLA, et elle a accepté très gentiment de revenir à l'émission MLT pour nous proposer quelques nouveautés audio. Bonjour Hélène.
Bonjour Clotilde, ça va bien?
Mais, oui, ça va très très bien, merci d'être venu par ce si beau temps. Vous aviez peut-être autre chose à faire, vous là?
Dans mon bureau.
Ah oui, de toute façon, alors. Alors donc, de toute façon, quitte à pas avoir de fenêtre, en tout cas, nous ici, on n'en a pas. Quoi.
En belle compagnie, mais oui.
Hélène, vous arrivez avec, sous votre bras, quelques livres à nous proposer.
Oui, absolument. Donc, quelques lectures pour les prochaines semaines cet été. Premier document que je vous recommande, c'est Non fictif d'Olivier Sylvestre, qui était finaliste du prix des libraires 2018. Donc, l'auteur est intervenant dans un centre de répit pour toxicomanes. Il a été pendant 10 ans. Il est aussi diplômé en écriture dramatique à l'École nationale de théâtre. Donc, ouais. Il a joint ses deux passions, on va dire, ses deux occupations. Il a même déjà gagné un prix, le prix Gratien Gélinas, pour une de ses pièces, La beauté du monde, en 2012. Mais il s'agit maintenant de son premier roman. Donc, ce sont des noms fictifs, mais des personnes réelles. Donc, il y décrit dans ce roman les personnes qu'il a rencontrées, qu'il a croisées dans son lieu de travail, qui sont habituellement là pour une période maximum de 48 heures. Ils passent, ils peuvent se reposer, ces gens-là, tenter, parler, s'en sortir, et ensuite, ils doivent repartir. Donc, ce sont des anecdotes, ce sont des portraits. Les récits sont imaginés, non fictifs, mais c'est basé sur les rencontres qu'il a faites, des personnes réelles, et c'est fait sous forme de poèmes.
Okay.
Donc, c'est court, ça frappe, ça nous enrobe rapidement dans le monde, et là, on quitte, et on se lance dans un autre univers. Donc, ça amène beaucoup d'humanité et d'empathie pour ces gens-là qu'on croise souvent dans la rue, mais qu'on ne connaît pas.
Et qui font, d'ailleurs, quand on parle de différence à Canal M, ce sont aussi ces gens-là qu'on va aller rencontrer à l'occasion de cette émission M l'été. Je vous laisse poursuivre. C'était juste une petite parenthèse pour faire connaissance un peu mieux avec... Pardon de vous avoir.
Donc, mon deuxième roman, c'est Tang Langvald, un autre Olivier, Olivier Kemed, je crois, K-E-M-E-I-D. Mm-hmm. Donc, Peter Tangvald, c'était un aventurier et un navigateur norvégien. Donc, il a vraiment existé. Il est décédé en 1991 à l'âge de 66 ans. Donc, un navigateur puriste qui naviguait sans moteur et sans radio sur les océans.
Oui. Sans moteur et sans radio. Oui. Donc, il ne pouvait compter que sur la force du vent et de ses bras.
Exactement. Oui. Et la force des bras des gens qui l'entouraient, parce qu'il est devenu particulièrement célèbre. Il a eu 7 femmes et 2 d'entre elles ont disparu en mer.
Ah, ben ça vous occupe,
sur le bateau. Sur le bateau.
Pas en même temps. Non. Une à la fois. Et un peu barbe bleue des mers, on va dire. Donc, c'est 2 de ces femmes sont disparues en mer. Lui-même, est décédé en mer. Sa fille, son fils, donc vraiment, la mère lui a tout pris. Il lui a tout donné.
Même il n'y avait pas de radio pour lui.
Exactement.
Il ne peut pas communiquer.
Exactement. Donc, l'auteur l'a rencontré, eu la chance de le rencontrer en 86 alors qu'il était pré-ado. Ouais. Et c'est une rencontre qui l'a clairement vraiment marqué, qui l'a hanté toute sa vie, qui a marqué sa vie. Il l'a rencontré, lui et son jeune fils. Donc, l'auteur disait « Ce jour-là, j'ai rencontré Ulysse et Télémaque. J'étais en présence de 2 figures de pure mythologie. » Donc, il romance la vie de cet homme qui a écrit, lui, des livres sur sa vie, mais l'auteur voulait amener ça plus loin. Donc, je dirais que les livres de l'auteur étaient peut-être un peu égocentriques. Mmh. Donc, l'auteur a voulu raconter cette histoire à travers ses 7 femmes. Parce que souvent, dans ses livres, le navigateur mentionnait peu ses compagnons, sa famille, qui a tout de même mis en danger. Donc, de façon assez importante. Donc, l'auteur voulait ramener le focus là-dessus.
D'accord. Avez-vous un petit extrait de ça?
Absolument. Petit, il est quand même un peu long, car on va voir le style de l'auteur.
C'est pas grave, c'est pas
grave. Qui faisait des phrases très longues. Mais
c'est pas grave. On a le temps. On se lance.
Ce qu'il faut comme folie et détermination pour décider de traverser seul à la voile l'océan Atlantique, sans aucune expérience transatlantique et somme toute aucune expérience véritable de skipper, suscite à la fois mon admiration et mon exaspération. Ce sont des sentiments qui s'entremêlent sans cesse chez moi au sujet de Peter Tangvald, que ce soit son rapport aux femmes, côté exaspération, mis à part les fois où il a été réellement amoureux, ou à la nature. Et dans ces cas-là, jaillit ma colère face à son orgueil. Un orgueil qui se mue en égocentrisme, le poussant à mettre son équipage en danger alors que le premier devoir d'un capitaine est de garder son équipage sain et sauf, avant de sauver son propre navire. Mais cette démesure nietzschéenne provoque aussi en moi, il me faut l'avouer, une grande admiration, voire une envie. Nous ne sommes pas les jouets de la nature et nous pouvons maîtriser les éléments. Il suffit de savoir comment. Tel est le leitmotiv de Tangvald. Or, où se logerait le fondement de la liberté si nous ne pouvions nous hisser au-dessus des forces de l'univers, si nous ne faisions que subir les outrages de notre environnement? Donc, cette contradiction,
l'envie,
mais aussi l'exaspération par rapport au choix du personnage.
On a le temps pour un petit dernier, puis le titre m'intrigue.
Oui, « Ils vont tuer Robert Kennedy » de Marc Duguin. Donc, Robert Kennedy, le sénateur américain, mm-hmm. frère de John F. Kennedy. C'est un sujet qui fascine l'auteur. C'est les théories du complot autour des Kennedy. Donc, c'était le sujet de son livre précédent. Mm-hmm. Donc, cette fois-ci, au lieu de se concentrer sur John F. Kennedy, on se concentre plutôt sur Robert Kennedy, qui, lui, a été assassiné en 1968, alors qu'il venait de gagner les élections primaires de Californie. Donc, mm-hmm. on dit que peut-être, probablement, Robert Kennedy serait devenu président plutôt que Nixon. Mmh. Donc, on a une impression encore plus de potentiel non réalisé. Donc, a-t-il vraiment été assassiné par la personne? Était-ce tous organisés?
Oui, c'est ça.
Donc, l'auteur va découvrir ça. Le roman décrit très bien l'ambiance des années 60, la contre-culture. Il tente de remettre ça en perspective. Et c'est l'histoire, donc, d'un professeur d'université canadien qui est clairement basé sur l'auteur du roman, qui se convainc que les suicides de ses parents sont liés à l'assassinat des frères Kennedy. Donc, entre l'auteur, le personnage principal, le mur est très mince, puis on est vraiment entre le travail historique rigoureux et un petit peu la paranoïa.
Oui, ils vont tuer, parce que oui, je le répète, mais c'est...
Et qui sont ces ils?
Et qui sont ces ils, exactement? C'est de Marc Dugain, D-U-G-A-I-N. Ils vont tuer Robert Kennedy. Hélène, merci beaucoup. Ça y est, c'est fait. Et en direct.
La première, absolument.
Oui, ça donne des petits tués, je sais, mais on s'habitue. Oui,
je vais gagner de l'assurance.
J'ai accro. Ah mais non, accro même. François pourrait vous en parler. Eh bien, mes amis, c'est la fin de la première. Hein? Ça passe vite, hein, quand même.
Oui, mais c'est très bon.
Ah, ben tant mieux si vous aimez ça. C'est la voix de François Baruel que vous avez entendu, François, co-animateur aujourd'hui. Merci, François.
Merci beaucoup, Clotilde.
Hein? On va recommencer ça ensemble, ne vous en faites pas. Je voudrais remercier toute cette belle gang. Tiens, je pense à Benoît Rassette qui vient de rentrer, l'autre poisson en ce moment qui est en train de nager dans cet aquarium qui est la régie technique. Merci à Benoît Rowe, merci à Hélène Gauthier, merci à Maxime Despomerello, ainsi qu'à Madame Labrec, Geneviève Labrec, qui est venue nous voir en tout début d'émission. On va se donner rendez-vous demain, mais demain, ce seront deux autres co-animateurs. Oui, on a décidé qu'on changerait comme ça un petit peu à tous les jours, et c'est ce qui va donner du charme à cette émission-là. Je voudrais remercier un gros merci à Anne-Laure Janson et à Catherine Bourderon. Vous imaginez bien que 6 invités par jour, c'est du boulot. Merci François.
Merci Clotilde.
Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. À demain.
Au revoir.